Bienvenue au Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank.
Oui, bonjour Nicolas. Content d'être avec toi encore pour cette nouvelle émission.
Très heureux aussi. On va faire un petit retour sur le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, c'est-à-dire qu'on a énormément abordé le fait du volet Azure Stack, qui est vraiment spécifique Microsoft au niveau du cloud privé. Tu m'as promis qu'on allait discuter de Outpost qui est chez Amazon, puis l'équivalent GCP aussi, qui sont des infrastructures de cloud privé de ces opérateurs-là, info nuagique.
Oui, effectivement. L'idée m'est venue à la suite du dernier podcast au niveau stack. Je suis évidemment un bébé Microsoft, donc par défaut, évidemment, Azure Stack, et ayant eu la chance d'y travailler dessus, m'a permis d'aller un peu plus loin sur le dernier podcast. Mais je pense que Outpost et puis Titan, hein, c'est Google Titan qui est évidemment derrière, je pense que ça vaudrait le coup éventuellement de faire, alors pas spécialement la même physiologie du stack, parce que je pourrais pas aller aussi loin, ça c'est toujours pareil, quand tu mets pas les mains dedans, on va garder une gêne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthode de travail. Si je peux pas trop mettre tes mains dedans, je vais pas non plus trop m'avancer. Sinon, tout le monde va aller lire la doc sur Google ou va aller lire la doc sur Amazon. Ils en sont aussi autant que moi. Mais c'est plus du côté, on va dire, sécurité, et plus du côté de qu'est-ce qui est en fait la différence entre les trois. Un truc tout bête, et juste je lance un premier point, ça donnera peut-être une idée ou une volonté qu'on le fasse vraiment, ce podcast. Mais par exemple, Amazon, pourquoi il est peut-être moins implanté au Canada ou moins implanté dans des notions comme la GDPR en Europe, c'est parce qu'en fait, même quand vous achetez un outpost, c'est quand même Amazon qui l'exploite derrière et c'est quand même lui qui a la main. À la différence où l'Azure Stack, oui, ça vous coûte une fortune, mais c'est vous qui avez quand même la main, évidemment, au niveau du produit. Donc, ça change quand même tout un point de vue important, surtout au travers de la partie matérielle, mais en même temps, la partie aussi souveraineté et gouvernance interne. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de faire une certaine, qu'est-ce qu'il y a comme service d'ailleurs entre les trois, qu'est-ce qu'il y a comme différence au niveau d'intégration, peut-être par les prix, même si je suppose que nos auditeurs sont aussi des auditeurs privés, mais je rassure, hein, personne à titre privé peut s'acheter un Azure Stack ou un Outpost même pour se faire plaisir, ça coûte quand même rien qu'un node, enfin pour un node, pour 4 nodes, c'est l'équivalent de $400,000 pour le côté Microsoft, c'est presque équivalent pour l'Outpost. Donc, c'est des outils qui sont dédiés aux grandes structures et au gouvernement, mais au moins, ça permettra éventuellement de faire des choix bien particuliers. Si voilà. Donc, oui, promis, je vais essayer de voir comment ça peut se faire et je te reviens avec ça pour cet automne. On essaiera de trouver une vélocité un peu plus grande pour peut-être même en faire deux pendant un mois. Promis.
Ça serait très bien. Puis de toute façon, on pourrait même en profiter pour discuter aussi des technologies qui sont propres à chacun de ces fournisseurs-là au niveau de la sécurisation. Généralement connu sous le nom de Secure Enclave et comment tout ça peut se matérialiser justement pour arriver plus loin. Mais oui. ça nous diverge d'un sujet d'aujourd'hui qui sont essentiellement, tu veux nous aborder les bonnes pratiques dans Azure. Qu'est-ce qu'on doit finalement faire pour pas se mettre un pied dans la bouche et se faire mal?
Oui, en fait, ma proposition du podcast d'aujourd'hui était plus de revenir un petit peu dans l'idée du podcast général ou de la demande que tu me faisais au travers du cloud et effectivement au travers d'Azure en tant que tel. Je rappelle encore une fois que ce qu'on avait mis d'ailleurs dans l'avant-dernier podcast qui était sur le côté de mettre la table des produits Microsoft, hein, au travers de l'idée as a service avec évidemment l'Azure AD. Je crois que j'en ai longuement. Je pense qu'on pourra en reparler aussi de cette fameuse grosse tentacule sur différents points, puisqu'il y a OpenID Connect, O2, des notions de connexion au niveau de l'API. Il faudra parler un de ces jours sûrement d'MS Graph, hein, qui est la révolution totale avec Microsoft. Et puis en même temps, de l'autre côté, M365. Et les gens, comme je leur avais précisé, le backbone et l'AD, vous devez avoir des notions d'AD on-premise ou non-on-premise, la notion de des fameux PHS, PTA, et puis quand on pilote du matériel avec les fameux trois hybrides, hein, le hybride joining, le hybride, la partie de dire qu'on est joining, AD joining ou éventuellement registered, les gens ont du mal et s'y perdent évidemment à savoir qui est quoi et comment. C'est dès qu'on est au mot, le mot hybride, AD joining, ça veut dire que vous avez un on-premise en même temps qu'une Azure AD. Dès que vous dites pas que vous êtes hybride, si vous êtes AD joining, c'est que vous avez qu'une vie dans le cloud. Donc, c'est des petites astuces de cette manière pour évidemment le faire, mais ça prouve aussi que ça n'a rien à voir avec Azure en tant que tel. C'est bien là le souci. Et ça n'a rien à voir avec enfin, ça n'a rien à voir. C'est lié en plus un peu plus avec M365 et les fameux 4 backends qu'il y a dans M365. Hein, je rappelle, hein, OneDrive, SharePoint, évidemment Teams et puis Exchange, donc les fameux EXO, MTO, DO et SPO, qui eux aussi ont leur vie au travers de cette backbone. Mais quand vous êtes comme ça, les data centers étant déjà séparés de toute façon physiquement avec Microsoft, dès qu'on rebascule dans Azure, d'ailleurs je rappelle, hein, petit rappel très rapide, quand vous setupez un compte M365 ou vous voulez setupez un compte office.com ou un compte azureportal.com, automatiquement, quoi qu'il se passe, que ça soit à titre privé, CSP, Enterprise Agreement, ou à titre MSDN ou quoi que ce soit, automatiquement, votre compte, s'il n'est pas compte Microsoft, hein, évidemment, donc compte Hotmail ou géré avec un compte, avec une DNS à vous, automatiquement, il crée derrière une AD qui va se positionner sur l'AD. Microsoft ne va pas réinventer la poudre. Et cette AD vous donne droit à, selon les abonnements que vous allez avoir, au M365 derrière. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez une subscription Azure. Et c'est pour ça qu'après, la subscription Azure vient en deuxième phase et elle est rattachée au tenant, ce qu'on appelle le fameux tenant Azure AD, qui lui-même va vous permettre évidemment après de faire de l'infrastructure. Donc c'est que cette partie-là qu'on va se rebasculer, parce que le monde Azure est quand même un monde vaste. Je rappelle rapidement qu'il y a quand même plus de 180 services en date sur Azure, et là je compte sans le marketplace, puisque là avec le marketplace c'est presque 5 fois ça ou 6 fois ça. Je crois qu'ils ont pas loin de 600 ou de 700 ISV qui travaillent avec Microsoft, comme peut le faire d'ailleurs AWS, hein. Il n'y a pas de plus que l'un que l'autre, mais c'est plus ou moins intégré ou en tout cas mis dans les anciens modèles de Microsoft de le faire, hein. C'est un peu comme les plugins ou les tiers parties qu'il y avait dans Windows pour le gérer. Donc là par contre, en tant que service, on retrouve un petit peu comme on retrouve d'ailleurs dans les services Amazon. Faudra aussi un de ces quatre qu'on fasse peut-être aussi une distinction un jour, puis des deux plus gros, parce que si on prend tout le monde ça va être long et ça va être un podcast de 2 heures, mais au moins de voir un petit peu qu'est-ce qu'une EC2, c'est les VM, qu'est-ce qu'une Lambda, c'est les Function Apps, qu'est-ce qu'est tel et tel service, ça se regroupe un peu dans ces services-là et ainsi de suite, au travers de tout ce qui est PaaS, SaaS et IaaS aussi, même phase, parce que Amazon comme Microsoft en ont, les Function as a Service, les Lambda en fait pour AWS. Mais après, il y a aussi toute cette notion, quitte à dénaturer, enfin à démystifier un peu aussi toute la partie AKS, EKS, ACR, ACI, donc tout ce qui tourne autour de Kubernetes, Docker, Registry, parce que ça encore, c'est tout encore un layer supplémentaire. Et là aussi, il y a aussi tout son monde de sécurité autour de tout ça, parce que en fait, en dessous, y a rien de réinventé. C'est encore des VM, c'est encore des PaaS, c'est encore des machines qui tournent. Vous les pilotez différemment et c'est Microsoft ou c'est AWS qui vous les pilote, mais il faut le faire. Donc là, moi, je suis plus dans un état d'esprit aujourd'hui de vous dire at large comment voir Azure au niveau best practice, et puis en même temps de vous donner. J'ai eu la chance de travailler avec des gens de Microsoft assez haut placés dans les parties, on va dire, de sécurité et compagnie, et j'ai un certain nombre de contacts qui me font relativement confiance à m'envoyer un certain nombre d'informations, et je les remercie d'avance, et que j'en profite pour en même temps vous en faire profiter pour avoir aussi des données statistiquaires, et en même temps de se dire Microsoft défend Microsoft, hein, si je reprends Microsoft, et lui aussi a évidemment des chiffres assez aberrants à offrir, à donner, et eux aussi ont des bonnes pratiques de sécurité pour voir son monde infrastructurel le faire. Comme on l'a dit la dernière fois, si tout le monde tape pizza as a service, ils verront qu'il y a la notion de pizza pour les SLA de responsabilité. Et les SLA de responsabilité, un gars comme moi, on se disait à l'instant avec Nicolas qu'on était des ronchons et des vieux cracons au lieu d'être la jeune génération avec tous les espoirs du monde. Je vous le rappelle, de refaire le boulot à l'intérieur du cloud comme vous le faisiez on-premise, vous perdez votre temps. Faut changer de métier. Encore une fois, essayez à penser de donner le plus de responsabilités aux providers publics, omis de vos droits de contexte, omis de vos droits de données. Je vous dirais pas d'aller encore revoir sur Secure et sur le podcast ma fameuse présentation Splinternet, mais ça vous prouvera que vous êtes en sécurité ou en tout cas avec les Five Eyes et autres nulle part. Donc arrêtez de croire que vos données sont faites. C'est une manière de les stocker, une manière de les véhiculer, qu'il faut les protéger, et pas de dire je vais garder mon AD chez moi et encore une fois avec mes fichiers m'ennuyer avec AD Connect, m'ennuyer avec encore des gens qui doivent gérer des VM, sachant qu'on les normalement, on les pas pour ça. Donc, encore une fois, c'est dans un état d'esprit de dire, utilisez le plus SaaS, le plus de PaaS, et que quand vous avez du IaaS à faire, bah, c'est que vous n'avez pas le choix pour diverses raisons et variées, ou après du Docker et compagnie, évidemment, du Kubernetes, mais ça, on rentrerait encore dans un autre phase. Donc, moi, les bonnes pratiques à aujourd'hui, je vais vous les lister rapidement. Je repasserai évidemment après sur la partie des du service. Surtout, Nicolas, tu me coupes quand tu veux prendre la parole ou éventuellement faire. Hein, n'hésite pas. Tu sais que si tu me lances la plupart du
je
temps...
Je n'hésiterai pas, ne t'inquiète pas. Voilà,
ou en tout cas, si tu as des questions, c'est pas magistral que je me sente pas seul, évidemment, dans le dans l'affaire. Là. Il est là, hein, je vous rassure, il part pas à chaque fois faire des courses et il revient. Merci, Francky, il éteint la sauce. C'était pour moi rigoler, une petite petite notion où j'essaye de m'aimer à m'entendre, surtout Nico, n'hésite pas à faire. En tout cas, pour la partie des bonnes pratiques, si on reprend par exemple l'aspect des VM et la partie IaaS, préférez souvent les VM machines scale set que les machines individuelles. Ça, c'est important. Les gens ont toujours tendance à gérer. Alors, je ne parle pas évidemment d'une classroom, je ne parle pas d'une VM que vous allez fabriquer pour vous en tant que dev ou en tant que test ou en tant que... attention, hein, pas de red teamer spécialement. Hein. Vous savez que vous n'êtes pas non plus très privacy à l'intérieur d'un VM, d'un data center Microsoft. Hein, donc, si vous venez à créer un ransomware avec un C2 à l'intérieur d'une VM, vous allez vite vous faire, vous allez vite vous faire avoir. Hein, Microsoft vous fait. Donc, ce que je veux dire, c'est au travers évidemment de la partie des d'une fabrication, préférez quand même les scale sets parce que c'est vraiment similaire au workload et c'est vraiment similaire par rapport à c'est similaire vraiment à tout ce qui est une notion où la scalabilisation voudrait avoir pour le fait que vous devez avoir évidemment accès à une VM. Avant ça, faites l'effort de savoir est-ce que vous pourriez pas refactoriser ou recréer ça en mode PaaS ou est-ce que vous pourriez pas le refaire en mode SaaS carrément. Donc revérifiez avant, mais si vous n'avez pas le choix, préférez à ça, vous avez vraiment beaucoup de bénéfices en management front, évidemment, au travers des scale sets. Un autre plan aussi qui est que personne ne prend en compte dès le départ, quand vous démarrez évidemment en Azure, vous avez les pilars de la sécurité, hein, les 5 pilars de la sécurité. Je pourrais faire un affront à mon ami Nicolas pour lui dire bah vas-y, sors-moi-les des pilars de la sécurité qu'on met un peu. Bon, ça dépend dans quelle mesure on le fait. Là, je vois qu'il me rigole, mais qu'il me dit ouh. En fait, au travers de ça, c'est souvent la gouvernance, la GIA, l'IAM, l'incidence response, le network. Vous avez un certain nombre de, on dit les 5 piliers, mais en toute logique, c'est les 5 piliers d'un SOC, hein, tout compte fait, qu'il faut revérifier. Mais là, votre architecture au démarrage, quand vous devez la faire, ou en tout cas, si vous devez la reprendre, n'oubliez pas un point. La première bonne pratique à avoir est déjà d'avoir un plan de disaster recovery et de backup. Si vous avez ce plan-là dès le départ, si vous savez dès le départ comment vous allez gérer, c'est un peu dans mon premier podcast, je l'avais précisé, à dire revoyez ou revérifiez qu'est-ce qui est intéressant. Est-ce que vous voulez faire une infra as code par rapport à un Terraform ou un ARM parce que vous allez l'installer qu'une fois? Donc, vous allez mettre 2 semaines ou 1 semaine à faire votre Terraform. Oui, ok, fait soit super, j'ai rien à refaire, mais au fait, tu l'as réinstallé combien de fois ton Terraform? Bah, 2 fois dans l'année. Ok, donc il n'a pas servi à grand chose pour rien. Donc encore une fois, c'est de savoir où on trouve la notion de l'équaliseur entre qu'est-ce que je mets à ce code tout le temps. Et effectivement, mais là vous prenez évidemment du temps là où il y en a peut-être pas besoin. Ou si vous aviez fait par exemple la machine et vous aviez dit ouais mais cette machine là avec le tweaking que je vais faire avec le POS et autres, n'oubliez pas que ça soit dans AWS ou Azure, surtout dans Azure. Maintenant vous avez toutes les technologies de snapshot, vous avez toutes les technologies de backup et elles aussi vous permettent de l'infrastructurer as code, qui fait que c'est beaucoup plus facile de repartir as code sur un snapshot et de recréer une VM qui est déjà, je vous rappelle, post-prep, donc ça voudrait dire que ça pourrait être même une VM spécialisée, ce qui veut dire que pour vous, ça vous génère moins de pain, qui peut aussi générer d'autres atouts comme bah, je peux gérer des VM pour des contractants, je peux gérer des VM pour éventuellement mes développeurs, je peux gérer des VM, puis vous avez une master par rapport à ça. Donc, il n'y en a toujours qu'une à manœuvrer et les autres à gérer. Donc, encore une fois, je n'ai pas dit que l'une était mieux ou meilleure que les autres, c'est encore une fois, posez-vous la question où se trouve le contexte et où est le mieux pour le faire. Parce que si vous êtes en train de tout générer, même avec les scripts d'installation et avec tout ce que ça peut comporter, mais vous le faites que, ah bah oui, ça c'est vrai, je l'ai installé sur 18 mois, je l'ai installé qu'une fois, mais que ça a pris 3 semaines de boulot pour le faire, ça valait peut-être mieux le coup de le faire en une journée, que ça fonctionne et qu'à partir de là, vous l'ayez backupé d'une certaine manière et que c'est lui le backup qu'il va falloir peut-être opérationnaliser. C'est ça qui, mon point est évidemment sur ce point-là. Puis en même temps, effectivement d'avoir un plan de gouvernance de backup dès le départ et d'un disaster recovery. Rappelez-vous, hein, c'est comme les militaires, c'est comme du DevOps ou c'est comme, même si c'est du DevCacaOps comme on dit, parce qu'ils veulent toujours, on refait toujours le déploiement et compagnie, ben, ça revient au même que les pompiers ou l'armée. Si vous testez pas ce que vous êtes en train de backuper, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien tout backupé ou est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez repartir à neuf? Est-ce que vous n'avez pas oublié une zone? Est-ce que vous n'avez pas oublié une version? Est-ce que vous n'avez pas oublié une VM, un disque, un attache disque? Ah oh, merde, oui, j'avais oublié, il y avait ce certificat qui était là aussi ou une clé dans un key vault. Enfin bref, tant que vous n'allez pas tester, encore une fois, si on voit les pompiers faire autant de fois de tests ou les Navy SEALs à refaire leur épisode à chaque fois pour le gérer, c'est pas un hasard, c'est que ça devient automatique et que ça doit évidemment tout couler de source. Donc c'est un des points importants.
Effectivement, absolument nécessaire. De toute façon, puis de mon expérience, je sais pas la tienne, mais il y a une énorme confusion sur comment les backups existent en info nuagique. Puis là, en fait, l'état de faut mettre les efforts aux bonnes places, justement pour l'infrastructure as a code. Mais je pense que les organisations ne comprennent même pas ce qu'ils doivent prendre en backup, qu'est-ce qu'ils doivent justement mécaniser, puis comment tout ça s'articule dans l'ensemble, parce qu'ils sont complètement là. Perdus, ils sont pas là. Ben, ils vont répéter tout le sursite. Ils vont prendre les VM en backup au lieu de dire ouais, non, mais on va juste reprendre la donnée en backup. Puis le restant, on le reconstruit à partir de script.
Oui, alors le fait est, Nicolas, c'est encore une fois, c'est un système de contexte à ce niveau-là, parce que les clouds publics, malheureusement, sont aussi, c'est pas des OBNL, ils sont là pour évidemment faire de l'argent, on est bien d'accord. Donc le but du jeu, il est de vous donner les services les plus intéressants au plus haut, pour évidemment que ça soit le plus cher, jusqu'évidemment au plus bas. Donc c'est sûr que d'avoir du backup géolocalisé, redondant, avec éventuellement un système de ASR Recovery et compagnie, c'est certain que ça va vous coûter une beurrée, mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Là aussi, c'est un contexte à faire. Et comme tu le dis au travers de, je voulais le faire passer au niveau des efforts, ce que je précise, moi, c'est effectivement, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez vous backuper. Parce que si c'est quelque chose d'assez récent, bah, backuper évidemment une VM pour une VM, à moins que celle-ci soit genre, je sais pas moi, une VM qui est votre Zero Trust, enfin, ou votre dictionary de certificat. Oui, bah là effectivement elle est importante parce qu'elle est dans le back-end, elle est pas internet facing, vous devez le gérer, bah faites des snapshots, parce que là à la limite la notion de backup en tant que telle, de backup d'Azure, n'est pas suffisamment responsive, n'est pas suffisamment lightwave, n'est pas suffisamment même YAC ou DevOps en tant que tel pour pouvoir le gérer. Le backup infrastructure, c'est la notion de dire, souvent d'ailleurs Microsoft le gère pour faire son fameuse Azure Migrate et pour évidemment migrer du on-premise vers du cloud, et c'est souvent le même outil qui est évidemment utilisé pour ça, qui s'est amélioré d'ailleurs avec le temps, heureusement, parce que les premières moutures étaient plutôt catastrophiques pour gérer les points. Donc le but du jeu, il est là, il est vraiment de se dire, est-ce que je backup le tout, est-ce que je backup, je sais pas, j'ai 230 VM, est-ce que je backup les 230, est-ce que je me génère plutôt, est-ce que je prendrais plutôt une gouvernance à dire, ah maintenant je vais faire des disques data avec des file share, avec un storage privé, avec des private link ou des access particuliers qui sont des access dans les VM, et que c'est plutôt ces data là parce que je vais forcer dans une gouvernance d'entreprise que mes gens puissent sauvegarder dans ces disques data. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le storage sous un cloud public coûte rien, et que évidemment c'est plus facile de backuper ça que d'aller se enquiquiner à se réinventer un Windows qui évidemment lui même bouge à tous les jours dans le cloud. Hein. Je vous rappelle, Microsoft met à jour ses images à peu près tous les deux mois. Donc, une image que vous auriez attendue il y a le mois de novembre de l'année dernière, vous ne l'auriez pas, ou alors il faut aller la chercher d'une certaine facilité à faire. Donc, ça dépend vraiment le contexte, mais une des premières choses, c'est d'avoir un plan. Et quand vous avez le plan, ou quand vous savez quoi sauvegarder, dans quelle manière, c'est surtout de, au moment où vous l'avez déposer ou déployer au travers de votre infrastructure, c'est dire, est-ce que là maintenant, si je coupe, est-ce que je suis capable de le restructurer? C'est ce que les gens des fois ont au niveau des subscriptions. Ils ont des subscriptions dev, ils ont des subscriptions QA, ils ont des subscriptions prod, mais je ne vois jamais une subscription backup disaster recovery ou backup test pour dire cette subscription-là, elle est là simplement pour voir que tout ce qu'on est en train de faire à droite à gauche dans les paliers, je suis capable de me régénérer pour que dans cette subscription, elle est toujours vide. Mais quand je relance mon affaire, est-ce que je revois la même chose que je revois dans un palier X ou Y? Et est-ce que je suis capable de retourner dans mes petits? C'est un petit peu tout ça que, parce que ça vous éviterait évidemment le pain. Puis je rappelle aussi que le backup est à l'envers depuis l'heure, hein. C'est pas Microsoft qui va vous perdre, hein. Je vous le dis tout net, hein. C'est, à part si demain il a décidé de faire du hijacking boursier ou du hijacking, je veux dire, de fric en disant vous aurez accès à vos données que si vous me filez un dollar. Bon là, à mon avis, il y aurait des lois encore une fois de pays qui seraient mis en avant. Mais je vous rappelle que c'est plus un backup si vous perdez votre connexion ou si vous avez une perdition de X ou Y ou une loi change et compagnie. Donc n'oubliez pas que le backup est à l'envers. C'est-à-dire que désormais, la vraie backup que vous devez faire on-premise, c'est une backup de données. La plupart du temps, ça suffit pour aller redémarrer. Et si par contre, vous devez avoir des backups d'infrastructures, parce que des fois, malheureusement, les installations deviennent tellement complexes, il faut presque backuper, évidemment, ce qui est le YAC pour pas le perdre. Parce qu'évidemment, on dit « Ah oui, merde, j'ai telle configuration et tel truc, c'est tel compliqué parce que ça marchait avec telle et telle chose. » N'oubliez pas que ça aussi, ça devient votre donnée en même temps très importante de votre entreprise. Parce qu'il n'y a pas que la donnée, que la donnée des personnes ou la donnée de ce que vous faites de votre business. Il y a aussi la donnée de ce qui vous permet de rouler votre business désormais, et c'est peut-être l'infrastructure as code ou les notions de config ou les notions de gestion de code et autres à côté qui permettent justement de le faire. Donc ça, ne l'oubliez pas non plus, parce que ça, c'est important évidemment de se sauvegarder. C'est presque un IP en fait pour les entreprises elles-mêmes, pour être capable demain de se resetuper et pas de dire « Bah non, excusez-moi messieurs les clients, on peut pas redémarrer avant 15 jours ». C'est sûr que là, les clients, il va y avoir de la cour, il va y avoir des problèmes de pénalité de service. Et n'oubliez pas au niveau du SLA que vous y êtes obligatoirement, surtout en IaaS, c'est votre responsabilité, c'est pas celle du cloud public. Pour ça que c'est important à ce niveau-là. Autre point aussi, pour le compute, quand vous provisionnez du compute, targetez d'abord toujours le SQ, donc le SKU, le plus haut. Et ensuite, selon évidemment ce que vous allez faire, vous le downgradez au niveau de votre plan de ce que vous voulez faire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, au travers des clusters et de la destination où vous allez, si vous dites tiens, je veux travailler parce qu'on est au Canada central. Ok, Canada central, coup de bol, comme c'est Toronto, ça a bien fonctionné, Microsoft est à plus de 75% de ses data centers usés, tout roule, c'est un data center qui commence à rapporter de l'argent et compagnie, enfin, en tout cas c'est une zone géographique, c'est une région qui commence à faire, à l'instar de Canada East par exemple. Bah, quand vous décidez éventuellement de dire « bah oui, mais moi, de toute façon, j'ai prévu dans mon système que je vais mettre une DS V4 ou une DS3 V4, parce qu'il y a maintenant les versions 4, ou une DS4 V ou une E20 S3, qui sont les fameuses grosses computes là, pour monter du Azure Stack en mode VM, ouais, bah ça, Canada East, pouf, ça marche pas. Les Generate SQ, d'ailleurs, je vous invite à le faire au travers de PowerShell, ça fonctionne pas parce que pour des raisons évidemment de coût, parce qu'ils n'ont pas topé tout le pourcentage qu'ils veulent, et ben il y a énormément de SQ qui malheureusement ne sont pas des fois disponibles dans certaines régions. Donc tapez toujours le SQ le plus haut et voyez comment le SQ réagit si vous voulez le créer. Vous pouvez le créer avec simplement le portal en disant tiens, je tape la plus haute, voir ce que ça donne. Puis là, ça vous permettra éventuellement de scaler en disant oh, ok, moi là je voulais m'installer dans telle région, je peux pas, ou en tout cas pas avec ça. Ah bah oui, tiens, faut que je cale avec ça. Puis ça peut changer évidemment votre aspect de votre application ou des différentes choses que vous voudriez amener. Donc ça, c'est important. Et qui va avec quoi? Qui va surtout au niveau du size et du pricing plan évidemment, mais qui va avec les quotas et les limites. Énormément de gens ne savent pas que les quotas et les limites sont déjà verrouillés à l'origine par Azure. Souvent, ils sont verrouillés par rapport au type d'abonnement que vous avez, donc MSDN, CSP, PAS-YouGo et Enterprise Agreement. Souvent, Enterprise Agreement, vous avez presque pas de limite de quotas, ou en tout cas très peu. Mais quand vous êtes en dessous, bah par exemple, vous pourriez avoir des quotas du style... c'est 500 VCPU, donc c'est 500 VCPU par région, pour toutes les machines. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas dépasser 100 VM. Avec 4 cœurs, par exemple. Parce que ça fait 400 cœurs. Non, 120 VM avec 4 cœurs, puisque ça ferait 500 cœurs. Donc, vous imaginez que À chaque fois que vous allez gérer évidemment des choses de cette manière, comme le SQL, comme les Postgres, comme les web apps, comme les plans des web apps, comme un certain nombre de choses, les quotas et les limites, normalement avec une demande à l'outline et compagnie ou à l'advisor, vous allez vite voir ce que ça donne, mais vérifiez à chaque fois vos quotas et limites parce que vous pourriez avoir une surprise du style, je sais pas, admettons que vous êtes une société qui veut faire un software et que vous voudriez monter évidemment des VM de test avec un labo de test et compagnie. Bah demain, si vous avez vous-même des propres VM qui fonctionnent dans une région, parce que c'est vos propres VM de boulot en plus entre prod et compagnie, parce que ça marche par subscription, hein, je vous rappelle, hein, pas par région différente. Donc là, puis dès demain, vous dites, ah bah tiens, le service de vente voudrait une trentaine de VM avec, bon, au minimum, même un 4 vCPU. Hein. En dessous de 4, c'est toujours compliqué avec du Windows Server ou du Windows 10. Et puis avec du 8 ou 16 gigs, là, pour le coup, ça aussi, il y a des fois des quotas et limites, mais ils sont moins tendancieux avec la partie mémoire. Ils y sont aussi avec la partie storage, donc il y a un peu plus là-dessus. Bah, là aussi, vous pourriez être surpris de lancer quelque chose puis d'être coupé au cours parce que vous avez des quotas et des limites à faire. Donc ça aussi, faire très attention évidemment à ça. Toujours aussi, un des quatrièmes points, parce que ça c'était mon troisième point, quatrième point, c'est le disposal environment. Le disposable environment, alors ça c'est à chaque fois que je vois évidemment des entreprises, et surtout ce que j'ai pu travailler depuis ces 4-5 dernières années, je sais pas pourquoi, ça doit être le cloud public qui doit amener ça, moi c'est... Malheureusement, je pense que moi, j'ai un trouble obsessionnel compulsif de mon côté, donc ça, c'est pas grave, c'est un TOC à moi, mais ça, comme vient de me dire Nicolas, il y a pas si longtemps, là, il y a à peine quelques minutes, je suis un vieux bougon avec des vieilles choses et autres, mais ça, pour
moi. On fait partie du même club.
C'est le même club, mais là, moi, le club du gars qui laisse une trash que je vais pas utiliser, s'il vous plaît, quand vous créez des ressources groupes, créez-les avec des tags, créez-les avec des choses qui sont évidemment un glossarisation et évidemment une verbalisation, on va dire, ou en tout cas, donc, le terme est vraiment une gouvernance, une glossarisation de vos noms de préfixes ou de vos noms de suffixes, mais surtout quand vous ne les utilisez plus, effacez-les. S'ils ne sont plus utilisés, effacez-les. Là, moi, je vois des fois des sociétés ou des gens et autres. La dernière fois, j'ai fait un test pour un client. Le pire, c'est qu'en plus, ils les utilisaient pas, mais on a fait une économie d'équivalent de $1,800 par mois. C'est surtout le cost que ça coûte, parce que quoi qu'on en dise, cumuler un nombre de storage ou de faux de shutdown, de trucs de je sais pas quoi avec des VM, une database isolée quelque part, ah bah oui, on a oublié de l'enlever, un VNet qui sert à rien, des subnets qui fait pas. Quand vous n'utilisez pas les choses, dégagez-les. Sinon, encore une fois, vous cumulez, comme on le dit dans les passwords reuse et dans nos systèmes de comptes, de connexion, on a des tonnes de comptes pendant toute une vie où d'un seul coup, on se retrouve un jour à se retourner et à dire « Merde, j'avais 500 comptes de connexion à 500 services différents et en fait, j'en utilise que 50. » Et que là, ça permet évidemment aux attaqueurs de faire les trucs. Ben, ça revient à la même chose au travers évidemment des ressources. C'est ingérable ensuite, c'est difficile à maintenir, c'est compliqué à faire, donc s'il vous plaît, disposez vos ressources. C'est pas compliqué. Quand vous le créez dans l'infrastructure as code, récupérez le nom dans la variable de votre variable ressource group name et puis créez-vous, c'est tout bête, hein, c'est delete-ressource group-name du ressource group et là il prend tout ce qu'il y a à l'intérieur du ressource group pour le faire. Sinon, à l'intérieur du ressource group, vous pouvez aussi effacer ce que vous avez décidé en tant que service. Donc ça, c'est important évidemment de le gérer. Ça a généré d'ailleurs aussi beaucoup de points, c'est qu'il y a des fois des gens qui lançaient des fois des web apps ou des function apps en test, mais ces function apps n'étaient pas suffisamment sécurisés même en dev. Comme ils sont front service et internet facing, eh ben encore une fois, une ouverture possible. Merci les développements, merci les trucs ouverture,
ouais, et bon nettoyage évidemment. Développement, ils aiment ça, ouvrir des affaires. J'ai vu des bases de données SQL ouvertes directement sur Internet, des choses comme ça. C'est des choses qui sont mal. Faut pas faire ça. Puis, en plus, les laisser traîner. Mais c'est toute l'histoire de MongoDB où, tu sais, massivement, il y a plein de gens qui l'avaient mis en place, Internet Facing, puis ils l'avaient laissé là et oublié que c'était opéré. Fermez vos bébelles quand vous n'avez plus de besoin. Comme on ferme la lumière quand on quitte une pièce, ben, faut effacer nos
Alors, en même temps, tu viens de me dire la lumière, donc je suis pas spécialement, mais j'essaye de le devenir avec le temps et avec l'âge. C'est que vous ferez plaisir à votre planète, parce que je vous rappelle que les clouds publics à aujourd'hui et le MIT comme un autre groupe aussi gouvernemental américain sur l'environnement a sorti quelque chose il y a pas si longtemps. C'est qu'on s'était dit, la planète avec le moins d'avions possible, on va récupérer 80% de tout ce qui était les fameux 17 je sais pas quoi de kilos de CO2 par personne qu'il y a dans les avions. Ouais. Sauf qu'en fait, les 80% qui correspondent aux avions qu'on peut voler, le cloud public et toute la demande de Teams et de toute la vidéo qu'on a demandé, nous, depuis un an en pandémie, je suis inclus dedans, mais en même temps, dans l'infrastructure et tout ce qui a été fait en cloud, a été dépensé à 10% près l'équivalent des rejets CO2 que les data centers font à aujourd'hui. Donc, malheureusement, on n'a pas récupéré 80%, on a juste récupéré 10%, puisqu'en fait, on a quand même, malheureusement, usiné 70% de CO2 équivalent. Donc, je vous rappelle, effacer les bébelles, ça évitera à des processeurs de tourner ou autres. Ça vous évitera de prendre des trous de sécurité, là, vous en avez pas, ou de trop gérer de choses, qui fait qu'à un moment donné, on abandonne, parce que quand vous voyez votre portal ou quand vous voyez sur votre PowerShell ou peu importe, 1000 ressources ou 5000 ressources, vous n'avez pas envie des fois de vous mettre la main dedans. Bah, le fait de le faire au quotidien, c'est évidemment bon à le gérer.
Ouais, puis voilà. Il y a un aspect que les gens, je pense, qu'ils maîtrisent pas. Puis tu sais, ça, c'est un de mes amis qui me l'avait conté. Puis il avait été un peu étonné. Il avait monté, lui, chez OVH, il monte une VM et juste le temps de la monter, elle a commencé à se faire scanner immédiatement pour toutes les attaques, puis elle se faisait attaquer du moment qu'elle a levé. Là, fait que perdez pas de temps à fermer vos choses parce que c'est méchant, là, les internets. Ils sont très agressifs.
De toute façon, il faut savoir que les public IP et le XML que Microsoft est obligé de donner, vous avez même un site là-dessus qui existe, qui permet d'avoir l'intégralité des public IP de Azure comme d'AWS. Je vous rappelle aussi que tout ça et l'intégralité des systèmes fonctionne aussi. Tiens, ça sera un petit podcast. Encore une fois, je relance une idée sur les fameux metadata instances et sur les fameux metadata instances internes, les fameux 169-254 qui sont utilisés par les clouds publics pour justement eux-mêmes puissent aller récupérer les informations au travers de leur propre instance aussi. Donc tout ça génère évidemment des points où effectivement les bots, dès qu'ils voient qu'il y a c'est simplement un scan à la Nmap ou juste un ping ou à la trace route de base ou telle IP de telle IP à telle région, en plus les régions, les IP qui sont carrées, donc le CDIR est facile à faire, et puis le gars, il continue à faire son CDIR. Il y a un robot qui va tourner sur le 52.213.51/16 ou /20, puis là il va faire toutes les trucs, puis là il va regarder à 1, 2, 3, puis il va faire, tiens, ce coup, si vous ouvrez une VM, bing, il l'a. Quand il l'a, il doit donner l'IP à un autre bot qui lui va s'occuper à faire, puis là toutes les brutes forces démarrent. Et ça, à aujourd'hui sur Azure, vous pouvez faire le test. Moi j'ai fait le test il n'y a pas encore longtemps avec en plus un client. Grosso modo, pour les Windows, c'est en moins de 2 heures, pour les Linux, c'est en moins de 3 heures. C'est-à-dire que dès qu'une VM est montée, qui est fait, s'il n'y a pas le just-in-time, s'il n'y a pas un certain nombre de choses qui est mis en place en amont, automatiquement l'accès au RDP, si le 33-89 est ouvert ou peu importe, le 22 ou autre, automatiquement le brute force s'est engagé de 2-3 heures avant. Et ça fait pas
de... C'est magique.
Magique, je sais pas si c'est magique, mais les IP sont publics, donc faut pas être idiot, évidemment. Maintenant, il y a des machines, puis vous connaissez évidemment les Chinois et tout ce qu'on s'était dit au travers aussi étatique. On est bien d'accord que ces gens-là ont les moyens, ont les faisabilités. On sait que les plus grosses fermes de rings pour les bitcoins ou pour tout ce qui est crypto-monnaie se trouvent là-bas parce que c'est les mecs dorsent 24 sur 24. Ils dorment dans des endroits où on mettrait même pas des fois nos toutous. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont les moyens. Je peux vous assurer qu'il y a encore les fameux immeubles où les gars viennent en costard cravate venir hacker, faire du ransomware à la Shenzhen, ça marche pareil, et les fermes d'attaque sont aussi là, donc on sait que c'est opérationnalisé, c'est des racks de Raspi, c'est des racks de machines pas chères, vous avez une Raspi 4 maintenant à 8 Go de mémoire et 16 Go en Linux, ça vous pète ce que vous voulez, ça peut vous faire du Nmap à pu en finir, donc c'est tout ça qui est important évidemment à comprendre, donc faites attention, VM, ce système, mais surtout les orphelins et les orphines, tout ce qui est orphaning, en fait, service, s'il vous plaît, détruisez-les pour ça. La partie cinquième, au travers des VM size, comme j'ai dit en haut, vérifiez, mais ne vérifiez pas avec évidemment spécialement, surtout quand vous êtes en PowerShell ou en AZCLI, avec la notion de la get size VM ou de la get system, vous en avez une autre commande qui est avec le mot skew. Et les 3-4 commandes qui sont dédiées au storage, à la VM size et compagnie ont le mot SKU. C'est lui qui aura la vraie version de ce qu'il y aura d'accessible au travers des régions. Et encore une fois, pour les size et les families, surtout pour les familles des VM, faites attention aussi parce que vous pourriez avoir des bugs en disant « bah merde, non, j'ai installé à tel endroit dans telle région, puis vous voulez récupérer votre code pour changer de région, aller sur SUS2, je sais pas, ou SUK ou peu importe, parce que maintenant on est à 60 régions, hein, ou je sais pas moi, en Corée du Sud, puis d'un seul coup, boum, ça marche pas. Bah, c'est parce qu'évidemment, il faut le vérifier. Donc soit vous mettez le code, try catch encore dedans, ou soit vous le vérifiez en amont avant de le vérifier dans votre code, mais surtout, utilisez-le. Ensuite aussi, toujours au niveau messaging approche. Là, on va rentrer un peu plus dans le développement maintenant. Sur la partie des messaging approche et des systèmes, là, on est sur notre sixième point. Utilisez surtout tout ce qui est queue, message web, web job et service pour prévenir les systèmes monolithes. Énormément de choses existent aujourd'hui sur Azure pour le faire, que ça soit avec les storage, que ça soit effectivement avec les web apps ou les web apps, puisque les web apps peuvent devenir des web jobs, et en même temps les function apps vous permet aussi de gérer ça. Donc surtout privilégiez quand même le queue, les messages et les web jobs par rapport aux approches, à la place de faire des systèmes évidemment pour prévenir le monolithe. C'est vraiment plutôt intéressant. La deuxième point aussi, un petit peu plus difficile au niveau du septième, là, c'est la partie des alerting. Alerte de Microsoft, le alert monitoring fonctionne pas mal. Il faut se la piloter, il faut se la faire et autres. Mais la notion du SOAR, qu'on retrouve d'ailleurs dans Sentinel ou dans certains outils de sécurité d'Azure, il faut savoir que vous avez un outil qui existe d'ailleurs dans M365 qui s'appelait avant, c'était quoi le nom, MS Flow, ben là maintenant il s'appelle Flow tout seul, mais c'est la plateforme Power. Donc c'était Flow, mais maintenant c'est Power Automate, et vous avez toutes les plateformes Power, hein, Power Apps, Power Automate, Power Chat et Power Bot. Ben là vous avez Power Automate qui est en fait Flow derrière, hein, c'est juste MS Flow derrière. Tout ça, c'est la technologie du Logicapps. Donc c'est le Logicapps qui est derrière. C'est assez facile d'approche, hein, je vous dirais, gérer Logicapps. Je dis pas que c'est dédié non plus à personne qui a fait de dev ou de JSON, c'est sûr que ça va lui sembler un petit peu compliqué, mais ceux qui ont commencé à faire un peu même bon, je veux pas être méchant avec ceux qui ont fait du access, mais je veux dire ceux qui ont fait évidemment des un peu de scripting, un peu de gestion au niveau développement, Logicapps se prend quand même pas mal, et ça permet d'énibler des notifications, des alertings, et surtout des alertings qui va vous permettre de gérer de l'intégration, par exemple, avec du Slack, avec Teams, avec évidemment des notifications qui seront évidemment l'outil de communication de votre entreprise derrière. N'oubliez pas non plus que vous pouvez faire des intégrations dans Slack aussi, comme dans Teams, mais vous avez surtout les Slack commandes, par exemple. Donc ça vous permet, par exemple, pour un Slack commande, de créer une commande. La Slack commande va gérer évidemment avec quelque chose que vous allez avoir fait qui va être déposé dans éventuellement dans une écoute d'une VM qui, lui, le Slack va évidemment voir, parce que évidemment Slack vous donne une API key derrière. Et si ça, vous l'avez bien géré au travers de votre VM, il n'y a pas de possibilité d'attaque de la VM et compagnie, parce qu'elle peut être que back-end, parce qu'il n'y a que Slack qui a le droit de l'utiliser. Et là, vous partez par soit des lambdas sur AWS, soit des functionless sur, évidemment, du function app sur Azure. Puis ça vous permet, par exemple, de whitelister des IP. Mais là, vous le passez par Slack. Vous tapez une commande slash whitelist mon IP comme tu le veux et fais mon truc, puis vous mettez votre IP, puis paf, ça part, la Slack commande bascule sur la machine l'a lu, ça le met en un peu comme une man on the middle, mais en auto, puis elle, en back-end, va faire toutes ses affaires, puis là, vous pouvez loguer, vous pouvez faire vos choses et compagnie. Donc, le Logicapps, lui, il le met de l'autre côté. Lui, c'est plutôt l'alerting de ce qui se passe. Donc, vous, de votre SOAR, vous pourriez faire des Logicapps qui sont pas dédiés spécialement à la sécurité pure, comme pourrait le faire Sentinel, mais vous pourriez quand même le faire pour dire « Oh, là, j'ai un CPU qui part à 80%. Est-ce que ma machine n'est pas en train de se faire dédosser, brute forcer ou je sais pas quoi ?» Ou « Tiens, un tel a lancé telle et telle bécane. Normalement, ces bécanes-là sont lancées que le week-end, par exemple. Tiens, pourquoi vous m'avez lancé les machines ?» Donc, voyez éventuellement ce qui peut être fait. Puis ça, ça peut être fait vraiment rapidement. On peut s'envoyer des mails. Vous pouvez enabler un SendGreen, par exemple, qui coûte rien pour 25 000 envois d'SMS. Vous pourriez avoir des SMS en même temps. Vous pouvez évidemment avoir des points. Donc, je pense qu'il y a des petites choses à faire. N'oubliez pas, évidemment, le côté LogicApps et d'alerting à ce niveau-là. C'est assez important. Ensuite aussi, pour les développement teams, ça c'est l'autre best practice à faire. N'oubliez pas que vous avez DTL, le Dev Test Lab. Le Dev Test Lab, c'est aussi quelque chose qui peut s'infrastructurer. On peut le piloter au complet. Et Dev Test Lab, en fait, ça met une coquille supplémentaire autour du nombre de VM qu'on installe au lieu d'être une VM dans un ressource group avec toute sa petite VM, avec son petit truc. Puis que vous pourriez mettre d'autres VM dans ce ressource group, je suis d'accord, mais vous devez la piloter manuellement VM par VM. Le Dev Test Lab, lui, il vous donne une sorte de coquille supplémentaire. En plus, Microsoft a été beaucoup plus loin parce qu'il a mis un service Dev Lab maintenant, et vous pouvez lancer au travers de ce service-là qui est complètement managé des classrooms, des trucs que lui-même a généré et qui pourrait vous le faire. Puis là, vous pouvez lancer après les choses. Les packers, les box starters, enfin bref, tous les outils qui vous permettraient évidemment de gérer. Mais ça, ça vous permet au niveau de Dev Lab, d'une, c'est que c'est gratuit, donc ça vous coûte pas grand chose, et deux, vous pouvez setuper jusqu'à bon, alors évidemment, les machines sont très spécifiques, vous n'avez pas le droit aux size et aux ties au complet, mais vous avez des, c'est du BMS2, BMS4, vous avez du A1, du A2, donc bon. Je dis pas que c'est pas non plus la panacée pour faire tourner je ne sais pas quelle IDE énorme avec évidemment une base de données, mais ça permet quand même un dev code à avoir un Azure dev code, quelques trucs en web ou des développements de base ou faire des tests, c'est quand même moins coûteux pour le faire. Donc n'oubliez pas non plus d'aller voir DTL, parce que le DTL en toute logique ne reprend pas tous les contextes possibles, mais en même temps son réseau est isolé aussi de votre de vos réseaux à côté, du VNet et encore moins évidemment de la prod, donc c'est évidemment intéressant. Ensuite aussi, c'est tout ce qui est les conventions, s'il vous plaît, de vos noms. Je disais tout à l'heure, la gouvernance et la convention des noms à ce sujet. Il serait bien de faire un glossaire, évidemment, de cette convention et de taguer aussi au travers, à l'intérieur, des ressources. Parce que alors ça, c'est une fumisterie sans nom de pas donner ça à... Normalement, ça doit être une seule équipe, ou en tout cas une ou deux personnes. Ça doit passer par un processus voulu. Et s'il vous plaît, les RG en majuscule, en minuscule, j'ai mis en préfixe, en suffixe, avec un tiret, pas de tiret, je les attache, je sais pas ce que je fais. Ben là, après, on se retrouve avec des tonnes de conventions où les gars n'ont pas été prévenus ou je ne sais quoi. On se retrouve avec évidemment des choses qui ne sont pas vraiment taguées comme il le faut. Puis en même temps, il y a des conventions peut-être de noms qui, des fois, c'est même pas dans le tag. Vous pourriez aussi dans le tag mettre vraiment le code de projet, la personne qui est responsable ou une information intéressante qui soit évidemment intéressante et pas spécialement leakable. Mais le fait est, c'est que c'est dans votre nom de ressource groupe ou dans les noms, évidemment, des services. Puis n'oubliez pas de notifier aussi les services. Quand c'est un storage à compte, mettre SA, c'est cool. On sait que c'est un storage à compte. Ou alors, vous décidiez que votre convention est anglaise au lieu d'être française. N'oubliez pas de travailler normalement qu'en anglais. C'est un conseil que je vous donne. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Travaillez pas en espagnol ou en allemand non plus. C'est compliqué, mais plutôt en anglais. Hein. Tout passe aussi au niveau des commandes, du SDK, .NET. Peu importe que vous prenez AZCLI, PowerShell et compagnie, est en anglais.
Oui, mais Microsoft fait un effort particulier de traduire toutes ces commandes dans Excel en français. Faut quand même...
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au travers du cloud et du portal, trouver abonnement au lieu de subscription, mettre évidemment des noms, vous allez vous perdre effectivement au niveau de l'infrastructure as code, d'une part. Et là, je parle de que ça soit du côté Terraform ou du côté, peu importe, ARM ou du côté évidemment des scripts. Je vous rappelle que Cloud Shell, qui est à l'intérieur aussi d'Azure comme de AWS, vous ne l'aurez pas non plus en français. Donc, je pense qu'il serait bon, peut-être, évidemment, enfin, on parle tous en informatique quand même, et quand je dis on comprend évidemment ce qu'il en est des termes techniques en anglais, mais d'avoir une convention et une glossarisation là-dessus, puis en même temps de nommer ces services, mais de les nommer proprement et de dire qu'est-ce qu'on veut faire au niveau suffixe et préfixe, ça c'est important.
C'est très important, puis t'as pas fait le lien, toi tu fais le lien sur le, disons, le plus le ménage, mais tu sais, on tombe en gestion d'incidents, cette nomenclature-là, ce glossaire-là, sauve énormément de temps, parce que quand l'équipe de gestion d'incidents rentre, au lieu de commencer à chercher le fonctionnement, à chercher pourquoi, puis ça, dès là, on est capable de déduire un certain nombre de choses. Donc, de pourquoi machine A me parle à machine B, on regarde le nom, les tags associés, et ce n'est pas censé. Donc, déjà là, on a déjà une capacité de relever rapidement des problèmes et d'agir efficacement aussi, ou beaucoup plus efficacement que si on a décidé de mettre des noms jolis comme on faisait dans les années 90 à nommer les planètes, les marques d'auto.
Oui, c'est ça. Je veux dire que la notion, c'est aussi de savoir, parce que là, évidemment, on joue et il faut le comprendre, hein, le cloud, c'est au niveau mondial, il y a des fuseaux horaires, vous avez plusieurs équipes, vous pouvez avoir. Donc, important aussi que quand c'est un groupe qui le met, même sur une subscription de la main américaine, bah, de dire que c'est du UK, ou c'est du FR, ou c'est été fait en Corée, ou ça a été fait au Canada. Donc, n'oubliez pas le CA ou le UK ou le FR et compagnie, de notifier éventuellement le numéro de l'équipe, parce que peut-être que le BU, le Uses Business qui se trouve être le bureau où ça se trouve a peut-être un nom ou un petit nom et géré de cette manière. Puis en même temps, le code de projet pour peut-être éventuellement récupérer qui doit prendre des décisions. Parce que je vous rappelle qu'en incidence response, il faut aussi appeler les gouvernants pour dire on doit te couper ça, on doit pas te le couper. Est-ce qu'on le coupe? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que ça doit faire qu'on a un SLA ou des indemnités à donner parce qu'on va éventuellement faire des choses? Donc, on est évidemment très intéressé d'avoir les informations les plus rapidement possible. La plupart du temps, le RTFM est vite oublié et en même temps, il n'y a pas spécialement une doc qui se trouve facilement ou que le gars va pas aller dans le DevOps ou va pas avoir les droits ou va pas aller dans la forge voulue ou peut-être, je sais pas moi, un Google Doc voulu. Donc, tout ça fait que si c'est strict et qu'il y a quand même une certaine cohésion, on arrive à retrouver ces petits assez rapidement et à faire efficacement les affaires. Derrière ça, l'infrastructure as code, on arrive à notre 11e et 12e. L'infrastructure as code est effectivement aussi important. On est dans des notions, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de, au lieu de créer une ressource évidemment à la main, attention, il faut se poser la question de l'effort. Moi, je dis pas qu'il faut pas de l'infrastructure as code, je dis il faut savoir où la mettre. C'est sûr que si vous là vous voulez juste vous setuper une bécane parce que vous voulez vous setuper une VM ou vous setuper une web app ou une fonction pour un test, vous n'allez pas vous faire genre un main TF, un var TF, un secret TF, je te fais toutes les affaires puis là je vais me setuper mon truc pour lui l'avoir utilisé une fois. Maintenant le reste de savoir oui je vais setuper mes affaires, est-ce que je vais prendre ARM template, est-ce que je vais prendre Terraform, est-ce que je vais prendre mon script, est-ce que ça va être plus sur du PowerShell, est-ce que ça va être plus sur de la Zcli, est-ce que je vais mélanger les deux parce qu'il y a des fois des choses qui s'adaptent plus à des langages de scripting que d'autres. Par exemple, malheureusement, Microsoft, du côté conteneur, ACI et compagnie, AZCLI est beaucoup plus verbeux, beaucoup plus facile à gérer quand on gère du Kubernetes ou de l'équivalent comme un peu le DockerCLI du côté AZCLI que dans PowerShell. PowerShell, c'est un petit peu plus lourd. Mais PowerShell pour gérer du web app ou gérer des points. Alors, il y en a qui sont des aficionados AZCLI au complet. J'ai pas d'a priori pour les deux. Moi, j'utilise les deux de manière assez individuelle, mais je suis un peu plus, moi, du monde PowerShell, parce que je viens du monde .NET, donc c'est facile, parce que pour moi, c'était plus facile aussi de le faire. Mais par ça aussi, vous devez impérativement vous poser la question de du contre-carré, on va dire, entre guillemets, de est-ce que je mets l'effort là où il faut mettre l'effort pour pouvoir le faire. Donc, attention, évidemment, jamais rien de manuel. Toujours, évidemment, des choses où j'ai pas besoin de le refaire deux fois, mais au moins de le faire, évidemment, intelligemment. Ça, c'est évidemment important. N'oubliez pas non plus, au niveau des apps-services, souvent au niveau des web apps, la chose évidemment qu'on oublie souvent à ce niveau-là, c'est que Microsoft a quand même, d'ailleurs AWS n'a pas son équivalent, hein. Souvent quand on veut faire des web apps en AWS, faut monter des EC2, ou alors à partir de là, ça va être des Lambda avec des EC2, ou des Dockers avec des EC2, enfin bref, il n'y a pas la même vraiment notion comme la web app avec le plan comme à Microsoft. J'ai pas dit qu'il était mieux ou autre chose, hein. Attention, je veux pas créer de zizanie pendant le podcast, hein, mais je dis simplement que la partie web app, c'est le métier de Microsoft au travers d'IIS. Donc, par défaut, c'était normal qu'ils puissent accéder là-dessus. Mais n'oubliez pas qu'ils ont aussi le côté HTTPS par défaut. Donc, n'oubliez pas de le setup. N'oubliez pas d'aller vérifier le just-in-time. N'oubliez pas non plus d'aller vérifier, et ça, c'est important, la partie des slots. Vous avez la possibilité de swapper. Il y a toujours deux slots qui fonctionnent entre une slot A et une slot B. Donc, ça permet aussi d'avoir, comme on disait dans un incident response, de pouvoir dire, ah, il y a un bug ou il y a un trou de sécurité ou je ne sais quoi. Je déslote celle qui était même en prod, hein, vous avez la même chose, parce que ça marche par, peu importe où vous êtes et peu importe sur la web app, et ça vous permet d'avoir deux slots dont une qui peut être remise en avant tout de suite pour pas avoir la structure. Vous aurez sûrement pété le cache en cours, les cookies des gens qui étaient connectés, sûrement un certain nombre de choses au niveau des objets sur de la sauvegarde, mais votre service ne sera pas éteint pour autant. Donc même au niveau des services plaintes et de la performance au niveau des environnements, c'est ça qui va vous permettre évidemment de gérer au mieux vos affaires. Un autre débat aussi que les gens ne le savent pas, ou en tout cas l'utilisent très peu, et c'est dommage parce que moi j'adore l'ARM template par défaut, même si des fois ça devient illisible. Mais pourquoi des fois ça devient illisible? Parce que les gars font des ARM template avec carrément le gros JSON au complet, où j'en ai déjà vu il y a de cela quelques années, mais j'en vois encore des fois avec des genre 500 lignes, 1000 lignes. Ouais, c'est sûr que là, si vous avez un ARM template là-dessus, évidemment Terraform a décidé, comme d'autres, HashiCorp n'a pas été idiot, hein, on a un main, on a une structure, on reprend les mêmes structures d'un langage descriptif avec la séparation des différentes choses. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Microsoft a fait aussi un split d'ARM. Il existe un computer split qui permet de faire un ARM majeur, donc vous avez un ARM maître, et cet ARM maître va basculer sur 1, 2, 3, peu importe combien, d'ailleurs je crois que c'est 65 000 le maxi, qui même eux peuvent ensuite re-splitter derrière. Vous avez la capacité de dire je prends un ARM maître et puis je me fais un ARM pour mes web, je me fais un ARM pour mes VNet, je me fais un ARM pour mes VM, et là ça split automatiquement parce que lui va swapper sur l'ARM core qui va évidemment aller swapper sur l'autre. Donc là moi je vous invite, si vous ne l'avez pas découvert, à aller le voir, ça c'est évidemment très important. Un des points importants aussi, et ça c'est la chose la plus entre guillemets j'ai pas démarré par ça parce que je voulais pas encore focuser là-dessus ou en parler pendant 10 minutes, mais ce qui est important c'est le just-in-time mechanics. Utilisez aussi le JIT, donc le just-in-time mécanique chez Microsoft, ils l'ont fait à peu près partout. C'est pas que le just-in-time chez MSI là, pour les .NET et compagnie ou pour les langages. Il l'a fait pour les VM, il le fait pour les PIM, donc pour le Privilege Identity Management. Bon là, les PIM sont évidemment pour les grosses structures parce qu'il faut être en ADP2, donc ça coûte évidemment de l'argent. Hein, on est bien d'accord. Hein, je suis pas malheureusement, vous l'avez pas en P1 ni en basique. Mais le just-in-time VM par exemple, ou la partie même Bastion, vous pourriez faire parce que c'est une sorte de just-in-time aussi. N'oubliez pas de le faire, fermez vos ports. Si vous n'avez pas besoin d'avoir la 3389 sur une VM en prod, ça me semble logique, vous n'allez pas y rentrer tous les 5 minutes, bah bordel, fermez-la, quoi. Mettez un just-in-time là-dessus, fermez le port 3389 et ouvrez-le que quand le gars l'a fait. Puis s'il doit l'ouvrir, il doit y avoir un process interne dans l'entreprise qui dit je dois y intervenir parce que je dois faire telle affaire ou telle chose et telle ceci et telle cela, et que là il y a un process évidemment mis en place, ça c'est important. N'oubliez pas non plus, un des derniers points, c'est pour le scaling, toujours, toujours, toujours privilégier l'horizontal scaling et non le vertical scaling. L'horizontal scaling veut dire plus de choses évidemment en horizontal et en entrée qu'un vertical scaling parce qu'on va grossir la capacité et compagnie, ça c'est faux. C'est considéré et de faire malheureusement un amalgame entre le parallélisation et la concurrence. Je sais que j'avais je sais pas si d'ailleurs c'était dans un podcast que j'avais expliqué l'affaire là, mais la notion parallèle et concurrence n'a strictement rien à voir. Les parallèles sont des workflows qui vont se passer, c'est dans un temps précis et ça doit s'arrêter en même temps au moment où tout est fini, que la concurrence, Nicolas peut aller sur un site web ce matin à 9h, y retourner qu'à 2h, et pourtant moi j'ai pu y aller deux fois de suite, et lui il a pas fait, puis il a pas vu mes trucs. C'est ça qui différencie évidemment. Tout ça c'était un truc c'est complexe, c'est pas complexe à la fois. Dans le développement, nous on appelle ça, c'est la fameuse table des philosophes, la table des philosophes où les philosophes se prêtent une fourchette pour manger chacun son tour du côté droit, et c'est aussi l'automate de l'ascenseur, hein. C'est la vraie saloperie des ascenseurs qui fonctionne, qui fait quoi, comment on le descend, qui prend. Quand vous en avez deux ça va, mais mettez trois ascenseurs et faites un programme pour vraiment vérifier la concurrence et le parallélisme, vous allez voir, vous allez vous triturer la tête, c'est une vraie catastrophe. Donc ça fait partie aussi des choses où scaler horizontalement et ne scaler pas verticalement, en tout cas préférer évidemment ça. Pareil aussi, les soft delays, les enable soft delay pour les storage accounts, enablez-le. Parce que ça vous permet, ça c'est la nouveauté qu'a fait Microsoft. Microsoft permet d'avoir, comme pour les Key Vault, avec aussi des Bianchi et compagnie, vous avez des soft delete qui vous dit que si vous délétez, vous avez la possibilité d'avoir 30 jours, 60, 90 jours. Et le fait est que s'il y a évidemment des problèmes, bah, c'est plus accessible, mais vous pouvez le réitérer. C'est un peu votre corbeille, en fait, du cloud. N'oubliez pas de le faire aussi pour des storage qui pourraient être très importants ou pour des services comme l'Equivolt qui pourraient être évidemment assez intéressants. N'oubliez pas le Network Security Group aussi à déployer. Le NFG doit être déployé à chaque fois que vous faites un subnet et un VNet. N'oubliez pas non plus de commencer au travers du plan que j'ai dit tout en haut tout à l'heure, qui était les plans de backup et autres. La première chose que vous devez voir en infrastructure, c'est aussi le réseau. S'il vous plaît, n'oubliez pas le réseau. Ça dépend si vous êtes en Express Route, si vous êtes avec évidemment oui ou non Express Route. Mais si vous devez faire un VNet, bah, faites un gros VNet au niveau des régions, parce qu'il marche au niveau des régions par rapport évidemment à la sub, donc c'est toujours par rapport au location, mais faites-en un /16 ou un /20, ça vous fait 4096 hein, pour le mieux d'IP, à moins que vous me dites que vous avez 5000 postes, bah là faites un /12 au pire, mais normalement un /16-20 devrait, 16 ou 20 devrait couvrir largement vos affaires. Ça vous permet ensuite de gérer vos subnets beaucoup plus facilement, et ça vous permet de démarrer déjà avec un bastion en flasque, et vous pouvez faire un /27 sur les différents subnets que vous allez pouvoir évidemment mettre en place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre VNet, le gros VNet, vous le mettez directement sur un ressource group qui a un ressource group VNet, et comme ça, vous avez un ressource group qui gère votre network. Vous avez votre VNet en avant, vous avez tous les autres VNet qui vont éventuellement être dans les autres services, mais qui se plient à ce VNet-là, donc il n'y a pas d'overlap qui se passe, et en même temps, vos subnets sont bien gérés avec évidemment la partie des bastions possibles qui peuvent être après setupés là-dessus. Je vous rappelle que pour bastions et comme pour d'autres, il y a des /31 ou des /27 qui sont dédiés avec des noms subnets fixes que Microsoft a mis. Donc ça, c'est aussi important de mettre en place toute cette partie-là. C'est
d'autant plus important que quand tu as le just-in-time, comme tu mentionnais, avec le PIM au niveau de Azure, c'est que tu vas être capable de les déléguer correctement et donc donner à un groupe particulier la capacité d'agir sur le gros VNet et donc juste un certain nombre de personnes sur demande, puis les plus petits VNet, à ce moment-là, leur donner un attribut à des gens plus opérationnels, plus courants que le gros qui, lui, ne doit pas changer très souvent.
Bah, c'est certain. La partie des rôles base et des IAM, évidemment, peut être beaucoup plus facilement granulaire. Je vous rappelle aussi qu'en faisant ça, bah, votre granularité des autres petits VNet peut après avoir les performances de DDoS, de peering, toutes les services en fait qu'a mis Microsoft derrière au travers évidemment du firewall. Le firewall peut être sur le gros et peut diviser sur tous les autres, ou alors après vous reprenez un autre petit VNet et vous pouvez le faire. Enfin bref, c'est souvent quand même le réseau qui est mis, malheureusement des fois à la fin, où on l'a fait à la vite, où on en a fait un, puis on n'a pas très bien compris parce que bah, c'est facile à monter, mais que c'est au niveau code, puis on ne voit pas d'impact parce que Microsoft est assez malin derrière pour aller réécrire ça et que les routeurs se débrouillent pour que ça fonctionne, même quand on overlap d'ailleurs une IP. Mais si vous overlappez une IP dans un vrai routeur, enfin, demandez à Claude, je peux vous dire que ça ne marche pas en tout du tout en termes physiques. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, il faut faire évidemment attention. Un autre débat aussi qui pourrait être sympa, et puis j'ai encore 2-3 points, puis on va pouvoir terminer là-dessus, j'aurais basculé sur mes 25 points. Un autre point, c'est qu'Azure Security Center, il est gratuit d'origine. Là aussi, ils vous donnent déjà en gratuité un certain nombre de fixes quand vous avez votre subscription. Souvent, les gens ne le voient pas, mais au lieu d'aller le payer en mode standard, en mode free, ils donnent déjà un certain nombre de choses. En même temps, puis ça c'est un peu vache et j'espère que Microsoft n'écoutera pas de podcast, sinon ils vont me tuer au fer, mais vous avez le droit aussi, ça peut être aussi un autre truc drôle, c'est que vous avez le droit de passer de standard à free. Ben, si vous voulez pas payer Azure Security Center parce que pour le moment ça vous trouve un peu trop cher parce que c'est ça et ça. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Azure Security Center, tant que vous n'avez pas les services actifs et qu'ils voient le mot 000, vous pouvez l'activer, ça vous coûte rien. Je rappelle parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues là-dessus comme quoi le service était payant. Non, il est payant que, encore une fois, on paye que quand on compute et quand on consomme. Donc c'est toujours pareil. C'est sûr pour les VM, c'est assez dispendieux si on fait attention à ce qu'on fait, mais vous pourriez très bien l'activer pendant à peu près une semaine, voir ce qu'il vous donne en mode standard sur l'intégralité de votre service. Puis lui, il va vous donner des quick fix. Et l'avantage, c'est qu'au moment où il donne des quick fix, c'est pas un système où vous mettez un agent, c'est pas un truc qui va vous verrouiller un lock et autres. Bah, vous repassez en free, puis au moins vous êtes corrigé. Bon, c'est une astuce à la con, mais je veux dire que par défaut, vous pourriez très bien aussi basculer en standard, voir ce que ça donne, dire bon, j'ai pas les moyens encore de basculer, de rebasculer en gratuit, et au moins vous avez fait au moins un certain nombre de recommandations ou vu ce que lui a précisé et de voir un petit peu ce qu'il en est. Ça ne mange pas de pain. Bon, vous aurez évidemment la facture de la semaine voulue de ce qu'il en est, mais bon, ça c'est de l'ingress qui est voulu, mais c'est ça qui est mon point assurément. Pareil aussi, c'est déniveler aussi le logging d'Equivault. Ça va avec Azure Security Center. C'est un des points qui vous donne tout de suite, c'est les MFA, l'accès au IAM, l'accès à la sub, qui est admin et qui log les Equivault. Parce qu'en fait, c'est là où se trouvent les pires secrets là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous le reprécise, évidemment, à ce niveau-là. Pareil aussi, je disais tout à l'heure, concernant la... Puis ça, c'est important au niveau des snapshots. Alors, toujours utiliser les standards disques. Parce que les premiums, la plupart du temps, sur certains premiums, les snapshots coûtent une fortune ou ne peuvent pas se faire. Donc, toujours les standards disques, même en SSD. Mais au moins, vous pouvez faire les snapshots. Parce qu'en premium, vous pouvez avoir des problèmes, évidemment, pour certains. C'est soit trop gros, soit les IOP sont pas compatibles et ainsi de suite. Ils doivent améliorer l'affaire. Et ça, c'est important. Gardez vos yeux sur les egress. Donc, les exits, les bandwidths, évidemment, de sortie. Ça va évidemment de soi. Surtout que, ça, c'est évidemment la partie qui coûte là-dessus. Et puis surtout, puis ça c'était mon truc de début à dire qu'il fallait dégager les offline ressources et autres, mais si vous avez des VM que vous n'utilisez pas, shutdown, le fameux shutdown, n'oubliez pas le shutdown à l'intérieur des VM, ça se pilote par le portal, maintenant ça se pilote par code ou par MS Graph, ça peut se faire, s'il vous plaît, shutdownez vos VM quand ils sont pas du 24/7, et si c'est pas shutdowné ou quoi que ce soit, ou si vous l'utilisez plus, effacez-la. Ça vous coûtera évidemment du prix, puis vous ferez plaisir à votre planète. Voilà. Il y en aurait plein d'autres. Là, c'est un peu les bonnes pratiques rapides, un peu alambiquées et compagnie. On pourrait poursuivre dans le prochain podcast, évidemment, un peu plus précis sur certains services précis. Là, j'ai voulu ratisser un peu large au complet, parce qu'il y a aussi les bases de données. Là, j'ai pas voulu, parce que sinon, là, on serait parti encore pendant 20 minutes. Mais il y a les bases de données, il y a les function apps, il y a évidemment toute la partie, pareil, comme on disait tout à l'heure, Equivault et compagnie. Il y a peut-être certaines petites choses qui peuvent être dites. Mais là, avec déjà ce qu'on a précisé dans le podcast, si vous faites attention déjà à tout ça, je pense que vous démarrez déjà sur le bon pied et vous avez la bonne vision pour garder quelque chose d'assez sain là-dessus. Évidemment, je ne cacherai pas que si vous pouviez, vous avez les moyens de lancer Sentinel, même si ça coûte pas si cher que ça, parce que c'est purement dans le PSUGO que du tag. Hein. Je vous rappelle que Sentinel en tant que lui-même ne coûte rien. Évidemment, c'est assez compliqué de le setuper au démarrage et d'avoir les KQL, mais Microsoft et la communauté sont un des GitHub qui marche le plus et qui est le plus répandu. Mais en tout cas, après, même au niveau de votre kilobyte ou des gigabytes qu'il pourrait y avoir et autres, je pense qu'au niveau des connecteurs, parce qu'après, c'est les connecteurs que vous allez être évidemment obligés de connecter derrière, mais je pense qu'un Sentinel, au moins sur votre AD, au moins sur les audit logs, au moins sur la Azure Activity, peut-être éventuellement au moins sur votre Office Activity aussi, rien que déjà ça vous coûterait pas non plus excessivement cher et vous pourriez déjà avoir on va dire entre guillemets une bonne prémisse de ce qui se passe au travers de Sentinel, mais aussi au travers de votre cloud au sens large.
Voilà. Ouais, Sentinel, c'est comme de toute façon, c'est comme la chez Amazon, c'est excessivement complexe à trouver le calcul réel de combien ça va coûter là. De toute façon, c'est dans le stockage qui vient de rattraper au niveau de ça, c'est même pas Sentinel qui coûte là, c'est les plateformes en dessous là.
Sentinel en PSUGO, c'est évidemment le stockage que vous allez prendre en termes de gigas, mais c'est surtout ensuite au niveau de l'alerting, vous pourriez utiliser Sentinel sans générer des alertes. Dès que vous ne enablez pas les alertes, vous n'enablez pas l'ingestion et vous n'enablez pas la machine learning qui se trouve derrière. Si ça, vous ne l'enablez pas parce que vous ne l'avez pas activé, automatiquement, Sentinel va vous coûter que dalle parce que il va vous coûter juste ce qu'il va vous montrer et ce que vous voudriez montrer avec des KQL parce que vous allez créer vos propres KQL ou les récupérer à droite à gauche sur le net, puis que vous pouvez vous faire des dashboards vous-même pour le faire. Mais là, on va dire qu'on est plus à la mimine et que c'est vrai que ça va vous permettre de le faire. Mais là, au pire, vous l'utilisez presque light, mais tout en étant quand même bien sécurisé parce qu'il va vous voir et faire des choses pour vous là-dessus. Maintenant, si vous passez à l'étape du plus qui est, je génère grâce grâce à mes KQL, mes analytiques, et mes analytiques, je gère évidemment mes alertes. Bah là, au travers que des alertes, bah lui, il va ingérer. Et là, c'est là où il fait les fameux super beaux RaiPi, RadiaPi, là, et puis les liens avec tout, parce qu'il va aller ingérer tous les logs, et puis il va aller voir qui fait quoi, comment, puis il va essayer de trouver les corrélations là-dessus. C'est les corrélations qui, évidemment, vous coûtent de l'argent, parce que là, de l'autre côté, lui, il compute, et c'est ça qui vous facture, évidemment, derrière. Donc, si vous arrêtez à quelques alertes et que vous arrêtez à juste créer des analytiques de votre côté, à la limite, c'est un peu comme la grosse truc que je viens de vous dire pour Azure Security Center. Vous le mettez en standard, vous regardez une semaine, vous le remettez en free, l'affaire est bâchée, vous êtes sauver. Le but du jeu est de le garder, bien entendu, et le but du jeu est de gérer parce que vous pouvez faire plein de choses derrière, mais pour des raisons de prix, pour ceux qui ont un peu moins de coûts, de facilité, bah, c'est des choses qui sont possibles à faire.
Ouais, de toute façon, au niveau de la journalisation, c'est très vaste ce qui est possible de faire, là, mais minimalement, outillez-vous, si ce n'est pas avec Sentinel, avec quelque chose d'autre, mais c'est très, très important, là, même si c'est à la sueur du front qu'il faut sortir les choses. Ça fait très... Oui, j'aime bien ton sourire. Ouais, des fois, il y a beaucoup de sueur de front qui pourrait être économisé par les abonnements, mais ça,
c'est la façon de les entrer. C'est pas la peine non plus des fois de reprendre un tiers parti pour autant, parce que n'oubliez pas que le tiers parti sera pas gratuit. L'ISV chez Microsoft, rien n'est gratuit. Dans le marketplace, encore moins de toute façon. Donc, automatiquement, dites-vous que tout ce que vous allez, même si vous installez un F5, un Checkpoint, un je sais quoi, un Palo Alto et autres, c'est sûr que Prisma Cloud dans Palo Alto est pas gratos, hein. Ça coûte je sais plus combien de milliers de dollars. Donc, c'est toujours le même débat, hein. Il n'y a pas de secret. La seule chose, c'est de savoir comment le manipuler. Évidemment, Microsoft est là pour faire avancer ses services. Il y a des moyens de le faire pour être justement très alerte au niveau de ses coûts. Et maintenant, je vous rappelle, hein, de monter un CIEM avec un SOC et compagnie, même si vous deviez le monter avec le matériel et tous les sondes qu'il faudrait, dites-vous que pour presque une entreprise avec 50 personnes et les 50 bécanes avec un petit data center interne et compagnie, il y en a au moins pour 500 000 dollars à 1 million de dollars à tout monter, à créer les bécanes, à faire le backup de tout, à faire le SOC, à faire Sentinel se monte en 10 minutes et vous coûte rien même dès le départ. Donc c'est pour ça que en relation, bon, après il faut savoir ses batailles, mais il y a peut-être d'autres choses à économiser ailleurs et garder ça que éventuellement des fois de l'éviter parce qu'on l'a sous la main et que ça nous éviterait éventuellement d'avoir des sacrées surprises du fait qu'on est cloud flashing tout le temps.
Ça, puis de toute façon, c'est parce que c'est là, puis tu le relates bien, c'est que les entreprises vont des fois oublier qu'un coût de licence coûte moins cher ou un coût d'utilisation que le temps que la personne met à développer des choses avec du fil à merguez. Donc, c'est là où des fois, on est peut-être mieux de payer ou licencié que d'aller essayer d'inventer soi-même quelque chose qui existe déjà.
Bah, même pire, c'est que vous rentrez encore une fois à perdre la valeur de ce que fait votre entreprise parce que vous repayez quelqu'un pour dire est-ce que votre entreprise est là pour surveiller ce que vous devez avoir en valeur vraiment, c'est-à-dire vos gens, les mails, les applications, les services, et dire qu'à ce gars-là, il faut mieux le faire former, à qu'il apprenne le KQL, à qu'il se prenne éventuellement les certifs Azure, que... En même temps, vous devez avoir quand même ce mec-là. Puis en même temps, vous allez dire, bah, je vais inventer, je vais aller acheter du matériel. Il faut que je monte le matériel. Il faut que je me monte l'électricité. Il faut que je me monte le backup de l'électricité. Il faut que je me monte la PC. Il va falloir en plus que je les patche, que je les update. Donc, il me faut quand même un sysadmin. Il faut que je me retrouve avec un gars qui puisse évidemment me piloter tout ça, qui s'intègre directement avec mon réseau et mon cloud. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même si vous le faisiez en VM à l'intérieur même de Azure, ça reviendrait encore même, comme je viens de le dire à l'instant, pour le marketplace, parce que faut que ça soit quand même quelqu'un qui connaisse le réseau, quelqu'un qui connaisse le Windows, je sais pas moi, serveur 2016 ou le Linux voulu, qui va falloir qu'il le patche parce qu'on a SLA IaaS. Vous perdez votre temps. Vous n'êtes pas payé pour ça. Payez un seul mec à faire que vous l'envoyez en formation pour du Security AZ500 avec du KQL derrière. Vous lui installez SIEM. Ça va vous coûter 10 minutes. Vous avez l'explication derrière où vous n'avez plus rien à gérer. Tout est OK. Et ça vous coûte que le salaire du gars. Enfin, je fais vite mon calcul. C'est vite.
Ouais. Effectivement.
Mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le cloud native versus encore les anciennes pensées dans le cloud native. Oubliez pas, si c'est la dernière parole pour moi aujourd'hui.
Ouais, ben c'est ça, là, faut changer le paradigme. On a fait un énorme tour, on va en avoir encore, là, t'as ouvert pendant la possibilité sur plein d'autres sujets juste avec
la boîte de Pandore, là, je pense, oui.
Encore plus que la dernière fois. Donc, merci beaucoup. On remet ça bientôt.
On remet ça bientôt. Je te revois au mois d'août. Redonne-moi une date, Nicolas. Merci de m'avoir invité. Et puis à tous et à toutes, encore un excellent week-end ou en tout cas une excellente écoute. Merci de nous écouter et de nous endurer en tout cas.
Merci beaucoup.